Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alison Gopnik est professeure de philosophie et de psychologie à l'université de Berkeley en Californie. En 2009, elle publie « Le bébé philosophique, ce que l'esprit des enfants nous dit sur la vérité, l'amour et le sens de la vie ». Elle y explique que si on s'était demandé à quoi pensent les bébés il y a 20 ou 30 ans, on aurait sûrement dit qu'ils sont irrationnels ou qu'ils ne pensent rien. Maintenant, dit Alison Gopnik, avec les progrès des sciences cognitives, depuis une vingtaine d'années, on pense que non seulement les bébés sont super intelligents, mais qu'ils ont une capacité rare à essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des autres, des bébés ou même des adultes. Or, c'est une des choses les plus difficiles à faire, ajoute Alison Gopnik. Et si on se fie à plusieurs expériences qu'elle a menées, dont une sur une affaire de brocolis et de crackers, les bébés auraient bien la capacité de se demander ce que les autres ressentent, quelles sont leurs émotions. Et cela tiendrait en partie à leur absence d'inhibition et de contrôle. Ils auraient ainsi plus d'imagination et d'ouverture d'esprit, en fait, que les adultes. Dans ce livre recensé par Slate, entre autres, Gopnik essaie aussi de nous donner une idée de l'effet que ça fait d'être un bébé. Il faut imaginer une personne qui débarquerait soudain dans une ville complètement étrangère ou sur une autre planète, sans raison particulière ni but, ni sans outils très développés de communication. Il lui faudrait alors lutter constamment pour saisir cette réalité, s'adapter, apprendre, survivre. Tout cela étant bien épuisant, ceci expliquerait au passage pourquoi les bébés dorment beaucoup et pleurent de temps en temps. Tout de suite dans les pieds sur terre, nous allons nous aussi tenter une expérience de ce genre. L'idée consiste à tenir le journal d'un nouveau-né de l'intérieur en essayant de prendre son point de vue, de raconter son histoire pas à pas, conquête après conquête. C'est une petite série d'Élise Andrieux sur la vérité, l'amour et le sens de la vie. Rien que ça, et ça commence avec la préhistoire de Marius, comment j'ai été conçu.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ben là, je passe mes mains sur mon ventre. Ah, là, il est en train de bouger. Ça me fait, à chaque fois, ça me fait sourire. Ça me touche encore beaucoup parce que c'est... Parce que je suis encore dans cette phase, évidemment, de grossesse où j'amène enfin le bébé à terme, mais pour moi, je ne le connais pas encore, on n'est pas encore dans la réalité, donc forcément, je suis toute émue avant... Avant vraiment la grande arrivée. Par rapport au terme vraiment qu'on m'a donné, il reste 20 jours. Le début de cette histoire, cette future histoire à trois, elle a commencé... Le 24 juillet 2011, quand j'ai croisé le regard de Jérôme un soir au Bataclan à Paris, je passais la soirée dans mon appartement avec des amis qui m'ont vraiment littéralement traînée au Bataclan ce soir-là. Je n'avais aucune envie de sortir, mais bon, voilà, en tout cas, j'ai suivi. Et puis, arrivé dans la salle, il faisait une chaleur explosive. Donc, on a décidé très rapidement d'aller prendre l'air. Et je pense, une minute vraiment après être sortie, mon regard est tombé sur Jérôme. J'ai vu un jeune homme barbu et tout de suite, je me suis dit « Ouah, je veux rencontrer cet homme ». On était à quelques mètres l'un de l'autre et son regard n'a pas décroché du mien non plus. J'ai ressenti quelque chose, je pense, d'électrique. En tout cas, moi, je sais que j'ai eu un coup de foudre ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris tout mon courage pour aller de l'avant, et c'est moi qui suis allée le voir la première. J'avais jamais fait ça de ma vie.
Notre histoire avec Laure, ça a commencé il y a un peu plus de 8 ans, au Bataclan. Je me rappelle plus trop de comment elle était habillée ce soir-là. Par contre, ouais, je revois vraiment ses yeux, quand nos regards ils sont croisés. Voilà, alors elle a le visage assez allongé, les cheveux longs qui tombent sur le côté, qui bouclent légèrement, avec sa frange. Il y avait ses grands yeux qui me regardaient, qui avait presque un côté assez envoûtant.
Il m'a pris la main pour m'emmener danser, alors que je ne suis pas du tout sûre qu'il aimait danser. Mais donc, après, c'est lui qui a pris les devants. Et il m'a proposé très très rapidement qu'on s'en aille du Bataclan. On s'est enfuis tous les deux. Je me rappelle avoir couru avec lui dans les rues de Paris. Je pense qu'on parlait très peu. Et il m'a emmenée chez lui. Et je pense que j'ai passé la plus belle nuit de ma vie.
Et voilà, du coup, bah, c'est un peu comme ça que ça a démarré très vite, en fait, avec Laure. Il a fallu pas beaucoup de temps pour qu'on s'embrasse, puis qu'on prolonge la soirée tous les deux.
Il y avait un échange, en tout cas de nos corps, de nos enlacements, qui était incroyablement beau. Mais oui, on s'est totalement abandonnés l'un à l'autre. Le lendemain, on reprend un peu la réalité des choses. Et Jérôme a été assez froid avec moi le lendemain, parce qu'il avait des choses à faire. Mais je me rappelle que j'ai eu quand même le droit à un petit café. On s'est dit tous les deux qu'on était célibataires, mais il n'y avait rien de plus, rien de moins. On s'est échangé quand même nos numéros. Et je suis repartie, d'une manière un peu plus froide que je ne suis arrivée. Après, voilà, la fin de l'été s'est enchaînée. Moi, je suis partie en voyage et je n'ai pensé qu'à lui. je pense avoir pensé à lui chaque jour. Et je crois que c'est la première personne à qui j'ai écrit à mon retour de voyage. Et le temps a passé, et puis on s'est revus une à deux fois sur le courant des 2-3 premiers mois de la rentrée. C'était vraiment magique. Et puis un jour, par message, il a décidé en fait de couper court à nous, à ce qui existait sans trop exister. En me disant, écoute, je suis pas spécialement à l'aise en fait avec la relation qu'on entretient, j'arrive pas trop à mettre de mots dessus, et donc je pense que c'est bien qu'on en finisse là. Je reçois ce texto, je tombe des nues, et je suis la prise vraiment d'une grande tristesse, et je lui réponds tout de suite. Peu importe notre relation, peu importe si on était ensemble, je pense que ça mérite pas en tout cas de se finir sur un message. Il a compris en tout cas ça et il m'a dit « je t'appelle dans quelques jours ». Et en fait, il ne m'a jamais rappelé. J'ai pas essayé de le rappeler parce que je me suis dit que à partir du moment où lui m'avait dit qu'il m'appellerait et qu'il l'a pas fait, c'était sa façon à lui de me dire au revoir, quoi. Et donc je rentre un peu dans quelques semaines de tourment, où je suis triste comme si je devais faire le deuil d'une histoire. Et en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment eu une histoire à part entre nos deux corps? Et puis j'étais, moi, redevenue la personne très timide. J'avais pas plus confiance en moi à ce moment-là, même encore moins qu'avant. Et je me disais qu'en fait, il ne devait rien et que c'était déjà beau d'avoir vécu ça. Et puis le 31 décembre 2011, avant la soirée du Nouvel An, j'étais près de chez mes parents, juste à côté de Rambouillet. La veille, j'avais passé la soirée chez un ami, donc je revenais de cette grande forêt en voiture. Il avait beaucoup plu et bon, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, la voiture s'est emballée dans un virage et j'ai traversé la route et je me suis encastrée dans deux arbres en forêt. Et tout a été, vraiment l'ensemble de la voiture a été touché, sauf ma place. Plus de peur qu'autre chose, évidemment la voiture n'existait plus, mais au moins moi j'étais vivante et je me sentais vivante, très très vivante à ce moment-là. Et la semaine qui a suivi cet événement, j'ai repensé à Jérôme. C'est voilà, ce genre d'accident, ça laisse des traces. Et on se pose un peu les questions sur ce qu'on veut, avec qui on a envie d'être. Et en fait, je me suis dit, pourquoi t'as lâché l'affaire si rapidement? Pourquoi t'as pas demandé d'explication? Il faut que tu le revoies. Et puis deux mois plus tard, donc j'ai quand même attendu, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et là, je lui ai écrit en lui expliquant vraiment finalement ce que j'avais ressenti de notre rencontre. Et en lui disant que c'était une évidence pour moi qu'on avait quelque chose à vivre ensemble. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme réaction à ce moment-là. Mais quatre jours plus tard, il m'a répondu. Et donc, ce jour-là, il m'a annoncé que c'était totalement réciproque, en fait, ce que j'avais, moi, ressenti, ce fameux coup de foudre. Et puis, le message continue encore. Je vois qu'il est très long. Et quelques lignes plus bas, je me rends compte qu'il m'annonce qu'en fait, il m'a pas dit toute la vérité. Parce qu'il m'avait dit qu'il était célibataire, mais voilà, qu'il voulait pas s'engager et que ça ne l'intéressait pas d'être dans une histoire. Et au même moment qu'il m'annonce qu'il a eu en fait un espèce de coup de foudre pour moi aussi, il m'annonce qu'il était en couple à ce moment-là et qu'il s'est engagé davantage avec cette personne depuis qu'il a mis un terme à notre pseudo-relation. Donc là, c'est vraiment la grosse descente. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à la partie positive, en fait, du message. Mais en fait, cette personne n'est pas disponible, quoi. Mais ça, moi, à ce moment-là, je l'occulte totalement. En fait, à la fin de son message, il me disait qu'il avait quand même très envie de me revoir. Si j'étais pas trop écœurée, en fait, de lire ses mots. Et voilà, il me dit rien de plus. Il me dit donc à toi de prendre la décision, en gros. Et donc j'ai accepté qu'on se revoie. Mais je voulais absolument qu'on se voie dans un endroit neutre, parce que j'avais peur que nos corps prennent le pas.
Moi, je pense que j'étais un peu perdu à l'époque, donc j'étais avec quelqu'un que j'aimais, voilà, mais je pense que bah, parfois l'amour s'éteint un petit peu et que on n'arrivait pas à continuer d'avancer, en fait.
Et puis rapidement, les corps ont encore parlé. Donc ça, c'était pas forcément une bonne nouvelle, puisqu'on s'est rendu compte qu'on était trop attirés l'un par l'autre, et que c'était pas bien, quoi, parce que là, les histoires n'étaient pas terminées pour lui, et que de toute façon, on savait qu'il y allait avoir de la souffrance, de l'attente derrière tout ça.
Et on a continué de se voir après pendant un temps, et moi, un an après, finalement, qu'avec Laure, on soit rencontrés, j'ai pris la décision de me séparer de ma compagne de l'époque. Mais il n'était pas question pour moi de me remettre tout de suite, à me réengager tout de suite dans une histoire. On continuait de se voir, mais on n'était pas en couple. Et à un moment, Laure m'a dit, moi, voilà, j'ai plus envie de voir quelqu'un d'autre que toi, quoi. Donc, elle m'a un peu mis au pied du mur.
Il me dit, ok, j'entends ce que tu me dis et je vais y réfléchir de mon côté. Donc ça a pris encore quelques semaines, mais en novembre 2012, c'est lui qui m'a dit, bon, bah voilà, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt à vivre pleinement cette histoire. Donc c'était le 10 novembre. Je m'en souviens parce qu'il a accepté pour la première fois qu'on sorte avec des amis. Et donc c'était, voilà, des présentations officielles. Et beaucoup de mon entourage avait entendu parler de lui. Donc voilà, c'était... On rencontre enfin le... comme le Messie.
Je sais pas si j'étais amoureux ou c'est des moments où on met pas forcément en tout cas les mots tout de suite sur ce qui se passe. J'avais beaucoup tendresse, d'affection. Mais j'ai mis longtemps à dire je t'aime alors. Sans doute parce que dans mon histoire et peut-être dans mes histoires précédentes, je dis pas que je l'ai dit vite, mais j'ai continué à le dire alors que parfois l'amour s'était un peu éteint. Et du coup, finalement, ce je t'aime, il peut parfois être un peu automatique au bout d'un moment dans un couple. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à dire je t'aime alors. Un an et demi, 2 ans. Bien 2 ans. Laure, c'est une femme qui est déterminée. Il y en a qui disent un peu têtue. Mais elle a beaucoup de détermination, finalement, quand elle se donne un but professionnel. Elle a monté sa boîte toute seule. Quand elle se fixe quelque chose, rien ne peut plus la détourner de son but. Alors Laure, c'est une petite artisane du papier. Alors, en gros, elle travaille le papier, répond à des commandes de particuliers, de sociétés, des gens qui organisent des choses un peu événementielles. Elle peut faire à la fois des grandes œuvres ou des toutes petites choses pour des petites vitrines, des publicités. Il y a beaucoup de fleurs en papier.
Oui, au début de nos rencontres, il m'avait dit qu'il était journaliste reporter d'images, plutôt dans le milieu de la politique. Et voilà, il débutait, je pense, depuis un an quand on s'est rencontrés, alors que moi, j'étais encore étudiante.
Pas dans la lune, mais elle a un côté un peu s'enchanter de plein de petites choses... Très spontanée, en fait. Elle va avoir des réactions soit à la fois très très excessives dans les deux côtés. Alors des fois c'est pas forcément évident à vivre quand on est à côté, hein, mais ça peut aussi parfois être marrant parce que génial, il y a ça. Vraiment comme elle a une capacité d'émerveillement un peu comme une enfant, justement. Et après quand ça part dans l'autre sens, c'est plus compliqué à gérer, mais moi je suis beaucoup moins dans l'excès j'ai moins de capacité d'émerveillement qu'elle. Je suis sur une même ligne émotionnelle.
Et à partir de ce moment, tout va être simple. Tout va devenir... Moi, dans ma tête, je m'étais dit, si il y a des projets qui se font, je préfère que ça vienne de lui. parce que je sais qu'il a besoin de temps pour tout. Et puis en fait, naturellement, et même 6 mois après, il me propose qu'on s'installe ensemble. Et à partir du moment où on s'installe ensemble, là c'est vraiment, on est fou amoureux. Et on se le dit tout le temps. Voilà, on est très aimants. Et donc, tout naturellement, quelques mois après, on s'est dit, allez, on se lance dans cette nouvelle aventure qui est de faire un bébé. Là, tout de suite, j'ai une contraction. Là, je suis... C'est encore très touchant d'en parler. À la fois, ça peut paraître très facile de faire un bébé. En même temps, c'est une succession de petits miracles sur lesquels on n'a aucune prise. Je sais pas si c'est le miracle ou si c'est le fait finalement d'avoir faire un enfant, créer la vie. C'est pas une certitude.
Coucou Marius. Coucou. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu veux venir voir de ce côté-là où papa il te parle?
On a décidé qu'il va s'appeler Marius.
Je peux essayer d'aider en fait à le... En tout cas, je pense à le diriger vers toi.
Je pose la main.
Ouais.
Déposé. Je sens qu'il arrive un petit peu plus de ce côté-là. Les pieds, là, on les sent bien. Là, c'est tendu de l'autre côté, il est bien serré.
Mmh. Il essaye un peu de bouger, mais là, il a quand même de moins en moins de place pour le faire, comme c'est bientôt la fin.
Oh. Je suis hyper crevée.
Allez. Hop, on se relève.
Merci.
T'as fini par te lever?
Comment ça, j'ai fini par me lever? Bah, ce matin, j'ai mangé avec toi.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est normal, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Mais non, sinon, j'ai avancé sur des petites choses. J'ai rangé plein de choses pour la chambre du bébé.
T'as rangé quoi?
J'ai dégagé toutes tes affaires.
Ah bah, voilà, faut faire de la place.
Non, j'ai rangé les vêtements, j'ai remis un peu les petits décors en place.
Et t'as mis où mes affaires?
Devant ton armoire.
Je vais sortir première pour après. Avec la petite chapka.
Merci.
Une fois qu'on est père, on va l'être toute sa vie. C'est quelque chose qui est sans retour. C'est vraiment un engagement
On va y aller.
Énorme. C'est le plus gros engagement, je pense, qu'on peut prendre dans sa vie, de décider d'être parent.
Ça va, tu mets les manteaux. Tu te couvres, hein, caille, caille bien dehors.
On sait qu'on s'en rapproche de jour en jour.
Allez, go.
Je sais qu'il est pas loin.
Thank you.
C'était le journal d'un nouveau-né, premier épisode avec la préhistoire de Marius, reportage Élise Andrieux, réalisé par Anne-Laure Chanel. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marsay avec Abdelrahim Chekrou. Merci à Laure et à Jérôme, à la maternité des Bleus à Paris, aux doulas, sages-femmes et ostéopathes d'Île-de-France qui ont aidé Élise dans ses recherches, ainsi qu'à Chloé et à Fabienne.
So you're having a baby in November. Is it enough with my blessing?